34. Il pouvait à présent contempler le monde interdit tandis qu'il descendait sous la couche nuageuse pour dériver à travers l'atmosphère. Son aspect semblait curieusement mité. Les régions polaires étaient couvertes de glace, comme on pouvait s'y attendre, mais n'étaient pas étendues. Les zones montagneuses étaient dénudées, avec de rares glaciers, mais également de superficies limitées. Il y avait quelques petites étendues désertiques, très éparses. Ces secteurs mis à part, la planète était potentiellement superbe. Ces zones continentales étaient vastes mais sinueuses, d'où une grande longueur de côte et de riches plaines côtières étendues. On voyait les luxuriants sillons de forêts tropicales et tempérées, bordés de prairies, et pourtant, l'aspect mité de l'ensemble du paysage restait évident. Éparpillés au milieu des forêts, apparaissaient des taches semi-désertiques, et certaines prairies semblaient maigres et dénudées.
Une espèce de maladie des plantes ?
Demanda Pellorat songeur.
Non, dit Joie. Lentement, quelque chose de pire et de plus permanent.
J'ai vu quantité de monde, observa Trévise. Mais jamais rien de semblable.
J'ai vu fort peu de monde, dit Joie. Mais je pense les pensées de Gaïa, et c'est là ce que vous pourriez escompter d'un monde d'où l'humanité a disparu.
Pourquoi ? Demanda Trévise.
Réfléchissez, dit Joie acide. Aucune planète habitée ne jouit d'un véritable équilibre écologique. La Terre a dû en avoir un à l'origine, car même si elle a été la planète sur laquelle a évolué l'humanité, il a dû s'écouler de longues périodes où celle-ci n'existait pas, pas plus que d'autres espèces capables de développer une technologie évoluée et dotées de la capacité de modifier l'environnement. Auquel cas, un équilibre naturel, perpétuellement changeant bien entendu, doit avoir existé.
Sur tous les autres mondes habités, en revanche, les hommes ont soigneusement terraformé leur nouvel environnement, acclimaté une vie animale et végétale, mais le système écologique ainsi introduit est promis au déséquilibre. Il ne possédera qu'un nombre limité d'espèces, et seulement celles désirées par les hommes, ou qu'ils n'auront pu éviter d'introduire.
Vous savez à quoi ça me fait penser ? Remarqua Pellorat. Pardonnez-moi, Joie, de vous interrompre, mais cela correspond si bien que je ne puis résister à l'envie de vous en parler avant d'oublier. Il y a un antique mythe fondateur sur lequel je suis tombé un jour. Un mythe selon lequel la vie se serait formée sur une planète et n'aurait consisté au départ qu'en un assortiment limité d'espèces, uniquement celles utiles ou agréables à l'humanité. Les premiers hommes firent alors quelque chose de stupide, peu importe quoi, mon bon ami, parce que ces vieux mythes sont généralement symboliques et ne font que vous embrouiller si on les prend à la lettre. Et le sol de la planète fut frappé de malédictions. « Y celui, onc, ne t'offrira qu'épines et chardons. » Ainsi est énoncée la malédiction, bien que le passage sonne mieux dans le galactique archaïque de la version originale. Le problème demeure toutefois de savoir si c'était vraiment une malédiction. Toutes ces choses que l'homme n'aime pas ou ne désire pas, telles que les épines et les chardons, peuvent être utiles à l'équilibre écologique.
Joie sourit.
C'est vraiment étonnant, Pelle, comment tout est prétexte à vous rappeler une légende, et comme celles-ci peuvent être éclairantes. Lorsqu'il terraforme une planète, les hommes négligent épines et chardons, quels qu'ils soient, et sont ensuite contraints de travailler dur pour que ce monde continue à tourner. Car ce n'est pas un organisme autonome comme Gaïa, mais plutôt une collection hétéroclite d'Isola. Et cette collection n'est pas encore suffisamment variée pour autoriser le maintien indéfini d'un équilibre écologique. Que l'humanité disparaisse, que se retire sa main directrice, et l'ensemble de l'écosystème commence immanquablement à partir à volo. La planète se déterraformera toute seule.
Si c'est ce qui arrive, observa Trévise sceptique. Cela doit prendre du temps. Ce monde est peut-être vide d'êtres humains depuis 20 000 ans. Et pourtant, cela me semble toujours, en gros, une affaire qui marche.
J'imagine, dit Joie, que tout doit dépendre de la qualité initiale de l'équilibre écologique. Pour peu qu'il ait été bien calculé, il pourra survivre un long moment à l'absence de l'homme. Pourtant, même si 20 000 ans, c'est long à l'échelle des affaires humaines, ce n'est qu'un clin d'œil au regard de la durée de vie d'une planète. « Je suppose, » dit Pellorat en fixant intensément le panorama, « que si la planète est en train de dégénérer, nous pouvons être sûrs que les hommes ont disparu. Je ne détecte toujours pas la moindre activité mentale de niveau humain et suis encline à supposer que la planète est parfaitement dépourvue de toute présence humaine. On note toutefois le bruit de fond et le bourdonnement des niveaux inférieurs de conscience, assez élevés pour représenter des oiseaux et des mammifères. Malgré tout, je ne suis pas certaine que la déterraformation suffise à prouver la disparition des hommes. Une planète pourrait se détériorer même avec des hommes dessus, si la société était elle-même anormale et ne comprenait pas l'importance de la préservation de l'environnement. Sans doute une telle société aurait-elle tôt fait d'être détruite, nota Pellorat. Je ne crois pas possible que des hommes soient incapables de saisir à quel point il est important de préserver les facteurs mêmes qui garantissent leur survie. Je n'aurai pas votre réconfortante foi dans la raison humaine, Pell. Il me semble, au contraire, tout à fait concevable que, lorsqu'une société planétaire est uniquement formée d'isolats, les préoccupations locales, et même individuelles, puissent aisément primer sur les préoccupations planétaires.
« Je ne crois pas la chose concevable, » intervint Trévise, « pas plus que Pellorat. En fait, puisqu'il existe par millions des mondes occupés par l'homme et qu'aucun d'eux ne s'est détérioré au point de se déterraformer, il se pourrait que votre crainte de l'isolatisme soit exagérée, Joie. » Le vaisseau quittait maintenant l'hémisphère éclairé pour entrer dans la nuit. L'effet était celui d'un crépuscule qui s'assombrissait rapidement, suivi d'une totale obscurité à l'extérieur, hormis l'éclat des étoiles, là où le ciel était dégagé. Le vaisseau maintenait son altitude en surveillant avec précision la pression atmosphérique et l'intensité de la pesanteur. Il se trouvait à une altitude trop élevée pour rencontrer la saillie d'un quelconque massif montagneux, car la planète en était à un stade géologique où aucune orogenèse n'était récemment intervenue. Malgré tout, l'ordinateur tâtait le terrain du bout des doigts électroniques de ses micro-ondes, juste au cas où. Trévise considéra le velours de l'obscurité et remarqua, songeur, en un sens, le signe qui me paraît le plus convaincant d'une planète déserte est l'absence de lumière visible sur la face obscure. Aucune société technologique ne serait capable de supporter les ténèbres. Sitôt que nous aurons pénétré sur la face éclairée, « nous descendrons. »«
Quel intérêt ?» s'étonna Pellorat. « Il n'y a rien là-dessous. » »«
Qui a dit qu'il n'y avait rien ?»«
Joie et vous ?»«
Non, Janov. J'ai dit qu'il n'y avait aucun rayonnement d'origine technologique et Joie a dit qu'il n'y avait aucun signe d'activité mentale humaine. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait rien là-dessous. Même s'il n'y a pas d'homme sur la planète, il y subsiste certainement des reliques quelconques. Je recherche de l'information. » Janov. Et en ce sens, les restes d'une technologie peuvent avoir leur intérêt.
Au bout de 20 000 ans ?
La voix de Pellorat devint plus aiguë.
Qu'est-ce qui peut survivre 20 000 ans, à votre avis ? Il n'y aura ni film, ni papier, ni imprimé. Le métal aura rouillé. Le bois sera pourri, le plastique pulvérisé. La pierre même sera brisée et érodée.
Ça peut remonter à moins de 20 000 ans. Observa Trévise, patient. J'ai mentionné cette période comme le plus grand laps de temps durant lequel la planète a pu rester déserte, car les légendes de Comporellon indiquent que ce monde était florissant à cette époque. Mais supposez que le dernier homme soit mort et fui ou disparu il y a seulement 1 000 ans. Ils arrivaient à l'autre extrémité de la face obscure, et l'aube vint pour s'illuminer de soleil presque instantanément. L'étoile lointaine plongea et ralentit sa progression, jusqu'à ce que les détails de la surface devinssent clairement apparents. Les minuscules îlots qui parsemaient le plateau continental étaient maintenant parfaitement visibles. La plupart étaient couverts de verdure. C'est dans l'idée que nous devrions plus particulièrement nous attacher aux zones désertiques, observa Trévise. Il me semble que les endroits de plus forte concentration humaine devraient être ceux où l'équilibre écologique est le plus compromis. Ces secteurs devraient constituer le centre de diffusion de cette peste qu'est la déterraformation. Qu'en pensez-vous, Joie ?
C'est possible. En tout cas, en l'absence de connaissances précises, nous aurions tout intérêt à commencer nos recherches là où c'est le plus facile. Les prairies et les forêts auront englouti la plupart des traces d'habitation humaine, de sorte qu'une recherche dans ces secteurs risque de se révéler une perte de temps. Il me semble quand même, nota Pellorat, qu'un monde devrait parvenir à établir un équilibre avec ce dont il dispose, que de nouvelles espèces pourraient se développer et que les zones incultes pourraient être à nouveau colonisées sur de nouvelles bases. C'est possible, Pell, dit Joie. Tout dépend de la gravité du déséquilibre initial. Et pour qu'un monde se guérisse et parvienne à retrouver un nouvel équilibre par l'évolution, cela exige plus de 20 millénaires. On parle là de millions d'années. L'étoile lointaine n'orbitait plus autour de la planète. Il dérivait lentement au-dessus des 500 kilomètres d'une lande couverte de bruyères et d'ajoncs, avec parfois un bouquet d'arbres. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Dit soudain Trévise en pointant un doigt. Le vaisseau s'immobilisa lentement dans les airs. Un grondement sourd mais persistant se déclencha lorsque les moteurs gravitiques passèrent en régime haut pour neutraliser presque intégralement le champ de gravité de la planète. Il n'y avait pas grand-chose à voir à l'endroit que Trévise désignait, en dehors d'une herbe rase et de monticules laissant apparaître le sol nu. « Pour moi, je ne vois rien de spécial, » dit Pellorat. On discerne une disposition rectiligne, des lignes parallèles, et même quelques vagues traces perpendiculaires, vous voyez? Là et là? Vous ne trouverez jamais ça dans aucune formation naturelle. C'est de l'architecture humaine. Le tracé délimite le contour de fondations et de murs presque aussi nettement que s'ils étaient encore debout. Supposons, dit Pellorat, ce ne sont là que des ruines. Si nous devons faire des recherches archéologiques, il va falloir creuser et creuser. Des professionnels mettraient des années pour faire ça convenablement. Certes, mais on n'a pas le temps de faire ça convenablement. Tout ceci pourrait indiquer le tracé d'une cité antique. Et qui sait, peut-être que des fragments en sont encore debout. Suivons ces lignes, et voyons où elles nous mènent. Ce fut vers la fin de la zone, à un endroit où les arbres étaient quelque peu plus touffus, qu'ils tombèrent sur des murs encore debout, en partie du moins. « Pas mal pour un début, » lança Trévise. « On se pose.